de notre vie.
Dans la vieille cité française,
un mouvement insurrectionnel éclate.
La commune est réclame.
Oui, la commune.
Et des millions de bonnes fois qu'est laissé l'état social. L'inégalité le ronge. L'insolidarité le tue. Des préjugés antisociaux l'étreignent dans leurs mains de fer. Les jouissances ne sont que pour le petit nombre qui les épuise dans ce qu'elles ont de plus raffiné. La masse, la grande masse, languit dans la misère et l'ignorance. Le salaire de l'ouvrier ne lui donne pas le nécessaire.
À qui la responsabilité? Sinon à ceux qui nous gouvernent. Ils nous ont conduits jusqu'au bord de l'abîme.
En avant pour la République, pour la commune et pour la liberté.
Place au peuple, place à la commune.
Aux armes.
On en a parlé, il y a donc dans cette commune de Paris et à Paris pendant l'année 1871 beaucoup d'étrangers, différentes communautés, on a pu le voir, on a pu voir le rôle qu'ils jouent ou pas dans cette insurrection. Ça sera beaucoup utilisé, notamment contre la commune, pour développer l'image évidemment négative d'un espèce de monde interlope, cosmopolite, où tout le monde se mélange, où on a là des Russes, des Hongrois, des Allemands, des Polonais, des Belges, des Italiens, ce qui est pas du tout, qui est plutôt considéré à charge, on va dire, contre la Commune de Paris.
Oui, absolument. Hein. Donc, ce terme de cosmopolitisme n'est pas nouveau, hein, puisqu'il existe déjà, effectivement, en 1871, dans la propagande anticommunarde. Donc, effectivement, on accuse la Commune de cosmopolitisme. On insiste sur le fait que l'insurrection est une insurrection finalement qui est aux mains de l'étranger. Alors par quel intermédiaire? D'une part du fait de la présence d'étrangers dans la commune, et puis par l'intermédiaire de l'international. Donc Paris est aux mains de l'insurrection, l'insurrection est aux mains des étrangers, donc Paris est aux mains de l'étranger. Et bien sûr, on utilise des figures comme celle de Léo Frankel pour dénoncer ce cosmopolitisme. Chez les anticommunards, donc, c'est une image extrêmement négative qui circule, alors que, on l'a vu, pour les membres de la commune, c'est au contraire l'idée d'universalité et d'ouverture au monde extérieur qui prédomine avec la présence de ces étrangers, notamment de Léo Frankel, au conseil de la commune.
Le 8 mai, au matin, 70 pièces de marine commencèrent à cogner l'enceinte depuis le bastion 60 jusqu'au point du jour. Déjà, les obus de Clamart arrivaient au quai de Gravel et la batterie de Breteuil couvrait de projectiles le quartier de Grenelle. En quelques heures, la moitié de Passy devint inhabitable. On évacuait le fort d'ici. Il râlait depuis le matin. Tout homme qui apparaissait aux pièces était mort. Vers 7 heures, l'évacuation commença. Le commandant Lisbonne, d'une grande bravoure, protégea la retraite qui se fit au milieu des balles. Quelques heures après, les Versaillais traversant la Seine s'établissaient en avant de Boulogne devant le bastion du point du jour et ouvraient une tranchée à 300 mètres de l'enceinte. Toute cette nuit et la matinée du 9, la guerre et le comité de salut public ignorèrent l'évacuation du fort. Le 9, à midi, Rossel arriva. À la guerre, on lui annonça l'évacuation du fort d'Issy. Il ne voulut rien écouter, sauta sur sa plume, écrivit « Le drapeau tricolore flotte sur le fort d'Issy, abandonné hier par la garnison. » Et, sans avertir la commune ou le comité de salut public, il donna d'ordre d'afficher ces deux lignes à 6000 exemplaires quand le tirage habituel était 6000. Il écrivit ensuite sa démission. Citoyen, membre de la commune, je me sens incapable de porter plus longtemps la responsabilité d'un commandement où tout le monde délibère et où personne n'obéit. Je me retire et j'ai l'honneur de vous demander une cellule à Mazas. » Il croyait ainsi dégager sa responsabilité militaire. Rossel pouvait à la rigueur adresser ses reproches à la commune. Il commit une faute impardonnable en envoyant sa lettre aux journaux. En moins de 2 heures, il rebutait des milliers de combattants, jetait la panique, flétrissait les braves d'ici, dénonçait à l'ennemi les faiblesses de la défense. Là-bas, tout le monde était en fête. Monsieur Thiers et MacMahon haranguaient les soldats qui ramenaient en chantant les quelques pièces trouvées au fort. L'assemblée suspendait ses séances et revenait dans la cour de marbre applaudir ses enfants du peuple qui se croyaient vainqueurs. Et on se dispute à l'hôtel de ville. Raoul Rigaud récrimine contre Vermorel qui veut voir clair dans le service de la sûreté. Sur le refus de Gambon, la majorité avait nommé Rigaud procureur de la commune. La discussion s'aigrit quand Delescluze entre subitement, usurpe à la parole. « Vous discutez, quand on vient d'afficher que le drapeau tricolore flotte sur le fort d'ici. La trahison nous enveloppe de toutes parts. Il y a 80 pièces qui nous menacent de montre-tour et vous discutez. » Le comité de salut public n'a pas répondu à ce qu'on attendait de lui. Il faut le renvoyer à la retraite. Je ne suis pas partisan des comités de salut public, ce ne sont que des mots. L'assemblée, secouée, applaudissait, interrompait aussi, subjuguée par cet homme sévère qui était le devoir vivant. Après plusieurs heures, on décide de renouveler le comité, de nommer un délégué civil à la guerre, de rédiger une proclamation, de ne plus se réunir que 3 fois par semaine, de mettre le nouveau comité en permanence à l'hôtel de ville, les membres de la commune restant aussi en permanence dans leur arrondissement. Le soir, on se réunit encore. La majorité mit au fauteuil Félix Piat. Il ouvrit la séance en demandant l'arrestation de Rossel. L'acte de Rossel était coupable aux yeux des moins prévenus. Son arrestation fut décrétée à l'unanimité moins 2 voix. On vint ensuite à la nomination du comité. La minorité, un peu rassurée par la présence de Jourde aux finances et l'attitude de Delescluze, résolut de voter cette fois et demanda sa place sur la liste. Excellente occasion pour effacer les dissidences, relier le faisceau contre les Versaillais. Mais les perfidies de Félix Piat avaient amené les romantiques à considérer leurs collègues de la minorité comme de véritables réactionnaires. Après son discours, on avait suspendu la séance. Peu à peu, les membres de la minorité se retrouvèrent seuls dans la salle. Ils découvrirent leurs collègues dans une pièce voisine complotant une liste. Après de violentes paroles, ils les ramenèrent à l'assemblée. Un membre de la minorité demanda qu'on en finît avec ces divisions indignes. Un romantique répondit en demandant l'arrestation de la minorité factieuse. Le président Piat en trouvait sa poche à fiel. « Quand Malon, taisez-vous. Vous êtes le mauvais génie de cette révolution. Ne continuez pas à répondre aux soupçons venimeux, à attiser la discorde. C'est votre influence qui perd la commune. » Et Arnold, un des fondateurs du comité central, « Ce sont encore ces gens de 48 qui perdront la révolution. » Mais il était trop tard pour engager la lutte et la minorité allait expier son doctrinarisme et sa maladresse. La liste de la majorité passa tout entière. Ranvier, Arnold, Gambon, Delescluze, Eudes. Le lendemain, Avrial accourt dire que Rossel et Gérardin ont disparu. Avrial, très fatigué de sa longue faction, avait demandé qu'on le remplaçât. Il crut devoir profiter de la présence de Gérardin et, laissant le prisonnier sous sa garde, il se rendit à l'assemblée. Quand il revint, Rossel et son gardien avaient disparu. Le jeune ambitieux s'était esquivé, malgré sa parole, de cette révolution où il s'était étourdiment fourvoyé.
Je voudrais parler aussi des étrangers qui ne sont pas forcément communards, qui n'ont pas pris part à la commune et qui sont pourtant à Paris, sous la commune. Alors évidemment, c'est très difficile de les connaître. On a un témoignage, c'est le témoignage d'un officier danois, qui est William Dinesen, qui sera plus tard donc le père de Karen Blixen, la femme écrivain très connue. Alors, Dinesen n'est pas communard, il est même plutôt hostile à la Commune. Il vit à Paris sous la Commune, il se déplace sans problème, il va même à Versailles par l'intermédiaire de Saint-Denis. Et lorsqu'il écrit donc son témoignage sur Paris sous la Commune, donc qui est paru en danois et qui a été traduit récemment, Dinesen déclare que, en tant qu'étranger, on était un homme libre à Paris sous la Commune, et que finalement, donc, dit-il, en tant qu'étranger, on pouvait se trouver merveilleusement bien à Paris sous la Commune, car la Commune leur manifesta beaucoup de courtoisie, ce que je ne puis qu'apprécier. Encore une fois, Dinesen n'est pas favorable à la Commune, et puis il dénoncera la répression versaillaise et les horreurs de cette répression.
Comme beaucoup des témoins qui ne sont pas forcément favorables à la Commune, mais qui auront l'occasion de vivre la Semaine sanglante
absolument,
à Paris.
Absolument. Donc, il y a beaucoup de témoignages, en fait, de gens qui sont restés à Paris sous la Commune sans être communards, ce qui prouve d'ailleurs qu'on pouvait rester à Paris sous la Commune sans être communards, qui dénoncent cette répression. Et puisqu'on parle d'étrangers, il faut bien dire que les journaux anglais, par exemple, très vite ont dénoncé cette répression, les massacres, et que ça a sans doute d'ailleurs contribué à ce que ces massacres soient plus ou moins arrêtés début juin. Donc véritablement, là, c'est vrai que les étrangers voient cette répression et beaucoup la dénonceront. Ceci dit, il faut aussi ajouter que la visite des ruines, donc des ruines de Paris après la Semaine sanglante, hein, puisqu'un certain nombre de bâtiments ont été incendiés, fait partie des visites pittoresques qui sont offertes aux Anglais, notamment. Hein.
Donc par l'agence Thomas Cook, il me semble.
Oui, il y a des agences hein, de visites, effectivement, de Paris. Et donc, on visite Paris en ruines. Alors oui, c'est quand même extrêmement surprenant et que c'est quelque chose de très troublant. Hein, mais il faut voir que quelqu'un comme Edmond Goncourt, donc, qui est anticommunard, hein, et qui est resté à Paris sous la Commune, lui aussi hein, fait la visite des ruines dès le 27 ou 28 mai et s'en va visiter les quartiers en ruines. Il va même, juste après la Semaine sanglante, faire un tour à Belleville pour voir ce qu'il en est. Donc il y a cet aspect
un peu macabre quoi.
Macabre, je dirais presque de voyeurisme hein, et puis une espèce de délectation face à ce spectacle des ruines et on voit bien chez Goncourt d'ailleurs que c'est l'idée de romantisme.
Le fort de Vanves, sur lequel se concentraient tous les feux dirigés auparavant contre celui d'Issy, était devenu presque intenable et son commandant l'avait évacué. Vrombelski prit le commandement des mains de la Cécilia malade et dans la nuit du 10 au 11 accourut à la tête des 197e et 105e bataillons de cette 11e légion qui jusqu'au dernier jour fournit indéfiniment à la défense. À 4h du matin, Vrombelski parut devant les glacis où se tenaient les Versaillais, les chargea à la baïonnette et les mit en fuite. Leur fit des prisonniers et replaça le fort dans nos mains. Une fois de plus, les braves fédérés montrèrent ce qu'ils pouvaient quand ils étaient conduits. Dans la journée, les Versaillais remplirent d'obus et de grenades aux picrates de potasse le couvent des oiseaux et le village d'Issy dont la grand-rue ne fut plus que des combres. Pendant la nuit du 12 au 13, ils surprirent le lycée de Vanves. Le 15, ils attaquèrent le séminaire d'Issy. Depuis 5 jours, Brunel s'efforçait de mettre un peu d'ordre dans la défense de ce village. Le 10 mai, M. Thiers dominait entièrement la situation, usant de tout, corruption, patriotisme, menteur dans ses télégrammes, faisant mentir les journaux, bonhomme ou altier selon les députations, lançant tantôt ses gendarmes, tantôt ses députés de la gauche. Il était arrivé à écarter toutes les tentatives de conciliation. Le traité de paix venait d'être signé à Francfort et, libre de ce côté, débarrassé de la province, il restait seul à seul avec Paris. Il était temps. 5 semaines de siège avait épuisé la patience des ruraux. Les soupçons des premiers jours renaissaient, accusaient le petit bourgeois de traîner en longueur pour épargner Paris. Justement, l'Union des syndicats vient de publier le compte rendu d'une entrevue nouvelle où M. Thiers aurait paru faiblir. Un député de la droite s'élance à la tribune, accuse M. Thiers de différer l'entrée. Il répond en rechignant « Quand notre armée ouvre la tranchée à 600 mètres de Paris, cela ne signifie pas que nous ne voulons pas y entrer. » Je dis qu'il y a parmi vous des imprudents qui se sont trop pressés. Il leur faut 8 jours encore. Au bout de ces 8 jours, il n'y aura plus de danger et la tâche sera proportionnée à leur courage et à leur capacité. Le 10, à l'avènement du nouveau comité de salut public, la situation militaire de la commune n'avait pas changé de Saint-Ouen à Neuilly, où l'on se fusillait sur place. Elle devenait grave à partir de la Muette. La batterie de Montretout, celle de Meudon, le Mont-Valérien, couvraient Passy d'obus et entamaient profondément le rempart. Les tranchées des Versaillais couraient de Bologne à la Seine. Leurs tirailleurs serraient le village d'Issy et occupaient les tranchées entre le fort et celui de Vanves, qu'ils cherchaient à couper de Montrouge. L'incurie de la défense restait la même. Les remparts, depuis la Muette jusqu'à la porte de Vanves, étaient à peine armés. Les canonnières soutenaient presque seules le feu de Meudon, de Clamart, du Valfeury. Le premier acte du nouveau comité fut d'ordonner la démolition de la maison de M. Thiers, surgérée par Arthur Arnould. Cette tourderie valut aux bombardeurs un petit palais que l'assemblée rurale lui vota le lendemain.
Ben voilà, donc on a vu Paris et la France plus généralement, mais beaucoup Paris, la grande ville, accueille beaucoup d'étrangers en 1870-71. D'une part, parce que la France est un pays d'immigration. Il y a beaucoup d'immigrés qui viennent travailler en France et à Paris. Aussi parce que la France est une terre d'asile politique, notamment pour les Polonais qui se sont insurgés contre la tutelle russe de leur pays et donc pour l'indépendance et qui viennent s'exiler à Paris où ils fréquentent les réseaux de l'international, etc. On a aussi donc ces réseaux de l'international, ces militants internationalistes qui circulent beaucoup, notamment dans l'Europe occidentale à cette époque, et qui anime un certain nombre de solidarités. Et donc on a vu que la commune, en tant qu'insurrection, sera tout à fait ouverte à la participation des étrangers. Il y aura même un étranger élu au conseil de la commune. Beaucoup d'officiers de la garde nationale qui seront élus par leur bataillon et qui sont eux aussi des étrangers. Et donc un certain nombre d'entre eux feront partie des communards arrêtés, voire exécutés par les troupes de Versailles. Un certain nombre seront jugés ou expulsés du pays, donc suite au procès de la commune.
Bon, il y a des expulsions d'étrangers après la commune. Hein. Et puis, même avec l'amnistie de 1879, un certain nombre d'étrangers seront amnistiés, mais seront toujours expulsés de France. Hein. C'est le cas de Cipriani, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est de Caen de Flourens et qui, effectivement, est expulsé après 1879. Oui, à propos des exécutions, hein, par exemple, ouais. Il y a Dombrovski qui meurt sur une barricade, enfin qui est mentalement blessé sur une barricade, hein, donc, dont on dit que ça a été un des meilleurs généraux de la commune. Hein, et Dombrovski voilà. Est polonais. Il est en France donc il s'oppose à l'Empire russe, il est favorable à l'indépendance polonaise et il est en France à partir de 1865. Hein, donc là, c'est ouais. Vraiment un exemple d'étranger qui donne sa vie à la commune finalement.
Et qui est tout à fait intégré à tous ces mouvements politiques,
oui.
À toutes ces structures d'organisation,
oui.
Ces réseaux de solidarité
oui.
qui sont spécifiquement parisiens.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Dombrovski, en fait, à la fin du Second Empire, est lié à Delescluze ou à Varlin. Donc là, on voit bien aussi les liens qui se font avant même la Commune.
Voilà, donc d'une part, on a l'impression, on l'a vu aussi, qu'il y a beaucoup de provinciaux qui viennent à Paris. Paris, à l'époque, qui se développe rapidement, où il y a une grosse croissance démographique, et donc qui représente un univers extrêmement différent de la province. Donc un provincial, entre guillemets, qui viendrait travailler sur Paris peut se sentir tout aussi étranger qu'un Polonais qui vient s'exiler donc dans la capitale française. On voit donc qu'il y a ces liens qui sont très profonds, qu'en raison de ces liens de solidarité, de quartier, de ces liens politiques aussi, beaucoup d'étrangers se sentent tout à fait chez eux à Paris et dans la lutte politique qui va être celle de la Commune. Et en définitive, que la Commune va défendre une vision de la République qui est la République universelle, qui est internationaliste, qui veut développer la solidarité entre les travailleurs du monde entier. Et donc une vision assez moderne de la lutte politique qui va presque totalement disparaître, en tout cas pendant un certain nombre d'années, suite à la répression de la Commune.
Oui, une vision moderne, mais en fait, qui est une vision qui est liée aussi, qui est une, comment dire, influencée par la Révolution française et par les révolutions du XIXe siècle, hein, parce que il y a quand même l'idée de fraternité des peuples, l'idée issue de la Révolution française et après de 48, hein, de lutte pour les peuples opprimés, hein, de défense des nationalités. Qui existe même déjà dans les années 1830 chez les républicains et même chez certains monarchistes, enfin en 1830, hein, j'entends, de défense des nationalités, des peuples opprimés, qu'on retrouve donc cette idée en 1848 et finalement qu'on retrouve aussi sous la Commune, hein, c'est-à-dire défense des peuples opprimés, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, hein, si je peux dire ça comme ça, mais finalement c'est ça, hein, et affirmation de la nécessité de constitution de nation. Alors, en 48 et sous la Commune, avec évidemment l'idée de république universelle. Et puis la Commune, il ne faut pas l'oublier, avait l'idée quand même que la Commune de Paris devait donner l'exemple aux communes de province. Enfin, l'exemple, en tout cas, devait entraîner les communes de province, et que finalement, on pouvait constituer une république, démocratique et sociale avec la constitution d'une fédération de communes. Et au niveau européen, il y aurait cette Europe fraternelle constituée, elle, de la fédération des républiques, elle-même constituée de la fédération des communes. Donc il y a quand même un fédéralisme européen qui existe. Issu de l'héritage du XIXe siècle et même de la Révolution française, et qu'on retrouve en 1871. Alors après, effectivement, c'est autre chose. Hein. Probablement, cette idée, moi, que je verrais, qui est un héritage, qui est à la fois moderne et qui est en même temps un héritage, effectivement, après, semble s'effacer un peu, hein, probablement d'ailleurs du fait de la répression de la Commune. Hein,
notamment du fait de la répression de la Commune, et on voit une vision de la République et de la nation qui ne comporte plus du tout cette dimension universelle, fraternelle et solidaire qui a pu être celle des républicains communards.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a plus cette idée de fraternité. Après, c'est la Constitution, effectivement, c'est lié au renforcement et à la Constitution et au renforcement des États-nations. Et donc au développement du nationalisme, effectivement, cette idée disparaît. Alors après, on parle de l'Europe, hein, au XXe siècle, mais il faut bien voir que déjà au XIXe siècle, et en particulier, mais pas seulement sous la Commune, il y avait cette idée d'Europe fraternelle. Hein.
Juste pour, comme ça, pour donner une idée qui a pratiquement disparu à la veille de la guerre de 14,
oui.
les voix qui s'élèvent pour appeler à la paix et... à la solidarité entre les peuples sont très 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 peu nombreuses, dont Jaurès qui sera tout simplement assassiné d'ailleurs.
Oui, on est très loin du printemps des peuples de 48 et puis de cette idée de république universelle de 71.
Qui met presque 80 ans à nouveau ressortir dans le vocabulaire politique et international.
Il me semble que c'est bien de terminer sur cette idée d'universalité et d'Europe, hein, d'Europe fraternelle, parce que l'Europe, ça peut être autre chose que...
Que la forteresse Europe.
Voilà.
Ou le marché commun.
Voilà, voilà, exactement.
Merci.
Ben, merci.
Par les prisons, par les pontons où la vermine nous dévore. Par les 20 feux de peloton dont Satori résonne encore. Par la foule en proie aux bourreaux, par les sinistres fusillades. Abattant Crémieux au pharo et de l'Écluse aux barricades. Par le sang qui ruisselle et boue, par le vent qui bat notre porte. Par tout ce que l'exil emporte, debout, 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 jurons de venger notre morte. Ils ont adossé des enfants contre les murs où l'on fusille, et les voilà tout triomphants de sauver l'ordre et la famille. Ils ont dans des coins inconnus traîné nos morts sans sépulture. Dans le massacre, ils sont venus s'enfonçant jusqu'à la ceinture. Par le sang qui ruisselle et boue, par le vent qui bat notre porte, par tout ce que l'exil emporte, debout, 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 jurons de venger notre morte. C'est parce que Paris a fait mourir 64 otages qu'ils ont déchaîné Galifée, ceux-là c'était des personnages. Mais les 30 000 damnés dont le verbe a les lèvres closes n'ont droit sous les cieux étonnés qu'aux larmes de l'aube et des roses. Par le sang qui ruisselle et boue, par le vent qui bat notre porte, par tout ce que l'exil emporte, debout, 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 jurons de venger notre morte. Et pourtant que demandions-nous, nous voulions comme nos ancêtres, ne plus tomber à deux genoux devant le lâche orgueil des maîtres. Nous voulions que la royauté ne vînt plus bâillonner nos bouches, et nous voulions dans la cité garder nos droits et nos cartouches. Par le sang qui ruisselle et boue, par le vent qui bat notre porte, par tout ce que l'exil emporte, debout, 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 jurons de venger notre morte. Les cœurs s'ouvrent, l'aube descend au charnier des guerres civiles. L'idée a mûri dans le sang qui coulait au pavé des villes. Nous saluons dans la clarté l'innocent retour des colombes, et l'humaine fraternité s'épanouira sur les tombes. Par le sang qui ruisselle et boue, par le vent qui bat notre porte, par tout ce que l'exil emporte, debout, 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 nous te bénissons, pauvre morte.
Place au peuple, place à l'inconnu.
Aux armes.